L'été 1969 par Evelyne Charras. Enregistré par Christiane Johan pour audiocité.net. Elle m'avait déposé, et elle était partie, me laissant muette et tétanisée, sa voiture soulevant un nuage de poussière sèche. Ma mère retournait à son travail, et je restais dans cette cour de ferme brûlante du soleil d'été, raide et gauche dans ma petite robe d'éponge jaune, citadine incongrue. J'étais ici pour passer juillet et août, loin de la ville, pour soigner une vilaine coqueluche qui me laissait exsangue après chaque quinte de toux. Séparée de ma famille parmi des gens que je ne connaissais pas, rugueux agriculteurs ayant accepté la tâche qu'ils jugeaient peu contraignante d'héberger une enfant souffreteuse moyennant finance. Arsène le patriarche, béret vissé sur sa tête, m'accueillit chaleureusement. « Voilà donc la petiote, dis donc t'es bien palote !» Puis, se tournant vers le bâtiment d'habitation, il héla « La grande, notre invitée est arrivée, installe-la et montre-lui la ferme !» La dite grande, une adolescente de 16 ans, la cadette de la maison, serait mon chaperon durant mon séjour. Cela ne l'enchantait guère de devoir veiller sur une gamine malingre, mais elle participait là aussi à l'entreprise familiale et elle avait l'habitude de faire, contre mauvaise fortune, bonne figure. Elle vint vers moi et attrapa ma petite valise. « Suis-moi, » me dit-elle, sans attendre ma réponse. Nous traversâmes la cour de terre battue, occupée par divers volatiles en liberté, encombrés de sacs, seaux et bottes de paille. La ferme se situait au bout d'une route, finissant en impasse. Plus exactement, en sentier herbeux qui courait dans les chaumes de la colline qui la surplombait. Les habitations longeaient la route à droite et s'ouvraient sur les champs à gauche. Deux parties composaient la ferme. La partie basse, où je séjournerais, était dévolue à la famille d'Arsène, qui comprenait sa femme Marguerite et la grande. Les bâtiments dataient du siècle dernier, les épais murs de moellons et les petites ouvertures ne laissant pas passer les rayons solaires faisaient que l'intérieur restait frais et sombre, même en été. La partie haute était le domaine de la famille de la fille aînée d'Arsène. Bâtiment moderne, maison neuve, large baie vitrée, tranchait avec la rusticité du bas. En haut, pas d'animaux divagants, pas de basse-cour folklorique. En haut, on misait sur l'attrait des chevaux pour rester vivre à la campagne. En haut, les jeunes, en bas, les vieux. La grande me mena à la chambre que nous devions partager. Elle se situait loin de la chambre des parents, dans un autre bâtiment. On y accédait par un vieil escalier de pierre. Il y faisait si froid que de gros édredons de plumes garnissaient nos lits. Je sus plus tard que ce n'était pas sa chambre habituelle, mais une chambre d'amis aménagée pour l'occasion pour préserver le sommeil d'Arsène et Marguerite qui se levaient à l'aube de ma toux intempestive. Elle donnait sur la cour de ferme. J'avais une vue unique sur les clapiers des lapins, le poulailler bondé et la porcherie où grognaient deux énormes bêtes promises aux bocaux et autres charcuteries. Sur le côté, à droite, la petite cuisine toujours éclairée où officiait Marguerite. Elle y régnait sans partage et s'activait toujours à fabriquer des fromages, à cuire des légumes et de la viande. Ici, elle ne travaillait pas comme à l'extérieur. Ici, elle se sentait en récréation. Elle était plus bourrue que son mari, plus distante aussi, faute de temps. Étant en convalescence, maigre enfant de la ville, j'étais dispensée des corvées de la ferme. Je n'avais d'autres occupations que d'observer et d'essayer de me refaire une santé. Toutes les activités de la ferme m'intriguaient, n'étant pour moi que mélange de merveilleux et d'inconnus. Mais pour ne pas embêter mes hôtes, bien accaparés par leur travail quotidien, je me reposais le plus souvent, les jours de grand soleil, sur une grosse botte de foin odorante destinée aux vaches, placée dans la cour face à l'étable. C'était mon poste de vigie. Les premiers jours me furent rudes. Il me fallut surmonter toutes les peurs suscitées ici. Le coq énorme m'effrayait, la soue des cochons, obscure et malodorante, me soulevait l'estomac. Les beuglements des vaches au moment de la traite me tétanisaient, même les placides chevaux m'impressionnaient. Heureusement, je pus compter sur la patience bienveillante d'Arsène pour m'aider à surmonter tous ces obstacles. « C'est normal que tu aies peur. On a peur de ce qu'on ne connaît pas. Viens voir, petiote, comment on trait une vache. » En confiance, dans l'étable, au plafond bas, sous la lumière tremblotante d'une simple ampoule, je suivais tous ses gestes. Quand il parlait aux bêtes en patois, elles le comprenaient. Cela me laissait stupéfaite d'entendre des incantations mystérieuses, quasi magiques, les faire se déplacer docilement. Devant mon air interrogatif, Arsène partait d'un énorme rire en me tendant un verre de lait tout chaud sorti du pis. « C'est comme ça à la ferme. Il y a des mots à connaître, petiote. » Je compris surtout qu'il aimait sa vie et tout le travail qui allait avec. Au fur et à mesure que passèrent les jours d'été, se fendit un peu ma carapace d'enfant des villes. Non pas qu'à l'issue de ces vacances, je devins prolixe et dégourdi, non, je restais toujours muette et timide, mais j'arrivais quand même à goûter le théâtre simple et réjouissant de la vie à la campagne. Postée sur ma botte de foin, unique et privilégiée spectatrice, je savourais chaque scénette quotidienne. La course pour les grains des volailles, le coq en tête, le jeu d'intimidation du chien devant le moindre visiteur, la voracité des chats, le calme des vaches, l'impatience des cochons, tout semblait immuable. Un éternel recommencement. Mais cela participait au rassurant mécanisme de la quotidienneté. J'appris à apprécier le fumet constant de la marmite destinée aux cochons. Dès le matin, Marguerite y versait toutes les épluchures, les restes de repas et des betteraves. L'énorme chaudron posé contre la soue cuisait de longues heures, répandant dans la cour une odeur de cuisine particulière. Mais sa fascination avait un revers, j'avais interdiction absolue de m'en approcher. C'était d'ailleurs l'unique interdiction de la ferme. Les jours de pluie, je restais à ma fenêtre de chambre, à regarder danser les petites flammes sous le gros chaudron et les volutes s'envoler. Puis, chaussé de mes bottes, je me réfugiais dans l'entrée de l'étable pour voir les gouttières déborder et envahir le caniveau. Tout près de ma tête, les hirondelles imperturbables allaient et venaient, affairées à nourrir leurs petits. Arrivait le moment où Marguerite, soucieuse de ma santé, m'appelait pour me mettre à l'abri des courants d'air. « Petiote, va pas attraper froid, viens donc ici !» Obéissante, je traversais la cour boueuse et la rejoignais dans la petite cuisine surchauffée. Je me forçais à manger tout ce que préparait Marguerite qui ne s'habitua jamais à mon appétit d'oiseau. Chaque plat n'était que nourriture roborative et consistante, et il ne m'en fallait une bouchée pour être rassasiée. Les repas étant l'occasion de réunir tous les travailleurs de la ferme, ils avaient quelque chose de gargantuesque par l'abondance de mets et quelque chose de monacal par le silence qui y régnait. À dessert, Marguerite me donnait un des fromages, peu présentable, qu'elle ne pouvait pas vendre au marché. Elle ne pouvait pas me faire plus plaisir tant ils étaient bons. Je faisais traîner un peu, car après, alors que tous reprenaient leurs activités, je retrouvais la fraîcheur de ma chambre pour une sieste obligatoire sous la surveillance intransigeante de la grande. Ma convalescence imposait ces moments calmes et cela me convenait. L'été passa ainsi entre découvertes et apprentissages dans cet univers rural qui n'était pas le mien. Chaque journée était différente, apportant son lot de surprises, certaines plus gaies que d'autres. L'arrivée du camion du Maquignon réjouissait Arsène, qui espérait une bonne vente, mais me laissait en larmes quand les veaux beuglants de peur embarquaient dans le véhicule. « C'est la vie de la ferme, » disait Arsène, bourru. « Ces veaux vont à l'abattoir pour que nous puissions vivre un peu mieux ici. » La venue du maréchal Ferrand dans la ferme du Haut fut par contre une parenthèse radieuse. Avant son arrivée, je sentis l'effervescence monter. Il venait de loin pour ferrer les chevaux. Tout devait être prêt. Arsène m'expliqua en quoi consistait son travail et me conseilla de me poster sur la charrette en face l'écurie pour le voir travailler. L'homme arriva et déballa à même la route tout son attirail. Marteau, tenaille, enclume, clou et petit brasero, où bien vite brûla un feu vif. Pour travailler, il ceint un lourd tablier et enfila des gants très épais. Il faisait beau, le temps passa vite à regarder les chevaux, calmes, le marteau frappait l'enclume, la corne s'entassait sur le sol au fur et à mesure. Les fers brûlants se fixaient avec des clous sur les pieds des équidés. L'odeur me soulevait l'estomac, mais je restais jusqu'au moment du repas. Ce fut un déjeuner particulièrement truculent et jovial. Le maréchal Ferrand, débarrassé de son lourd tablier, loin des flammes de sa forge, fit honneur au plat revigorant de Marguerite. Arsène ne cachait pas sa joie de parler patois avec un homme qui lui donnait des nouvelles des fermes environnantes de façon plaisante. Ce jour-là, je quittai à regret la petite cuisine résonnant de leur rire pour ma sieste quotidienne. Une nuit, vers 2 heures, la grande me sortit doucement de mon sommeil. « Réveille-toi !»«
Pourquoi ? » ?»«
Lève-toi, tu verras bien !» Et sans plus d'explication, elle posa une couverture sur mes épaules avant de me précéder dans l'escalier de pierre. Titubante, je la suivis dans la nuit claire et silencieuse, encore toute chiffonnée de rêves. La cour endormie et sombre offrait un visage lisse. Seule la petite cuisine était éclairée et étrangement animée à cette heure. Ils s'y entassaient dans un joyeux brouhaha, Arsène et Marguerite, leur fille aînée et sa famille, plus quelques voisins, tous devant le poste de télévision allumé. « Vous voilà, les filles !» nous accueillit Arsène chaleureusement. « Asseyez-vous devant, ça va commencer !» Je m'assis sagement face à l'écran noir et blanc, tressautant et grésillant, où je vis 2 personnages, en scaphandre blanc, qui semblaient danser lentement.
« Vous avez vu ça? C'est extraordinaire! Extraordinaire! Ils sont sur la lune! Ils marchent sur la lune, en direct !»
s'exclama Arsène, admiratif. La petite assemblée s'animait et s'extasiait devant l'exploit, appréciant même les commentaires en anglais. Toute cette joyeuse agitation dura de longues minutes. Puis, soucieux de nous préserver quelques heures de sommeil, Arsène nous autorisa à retrouver notre lit. « Vous pouvez aller vous coucher, les filles. Vous venez d'assister à un événement unique. Vous direz plus tard, j'étais là. » La grande et moi ne nous fîmes pas prier pour quitter la cuisine étouffante et l'enthousiasme incompréhensible des adultes. Traversant la cour immobile, je regardais la nuit étoilée baignée de lune.
« Tu crois que c'est vrai tout ça? Qu'ils marchent sur la lune ?»
Mais mes questions restèrent sans réponse. La rentrée scolaire sonna l'heure du départ. Je ne toussais plus, ou peu. J'avais dit au revoir à Marguerite et à la grande. Arsène déposa ma petite valise dans la voiture de ma mère. Devant mes sanglots, il resta grave et s'abaissa à ma hauteur. « Ne pleure pas, tu es guérie. Tu reviendras bientôt. » Mais, comme moi, il savait bien que c'était des adieux.
« Tu te souviendras de nous. »
La voiture démarra, soulevant la poussière sèche de la cour. À travers mes larmes, je le vis agiter son béret. Geste ultime qui referma cette parenthèse de mon enfance. Ici se termine l'été 1969 par Evelyne Charras.